주의 거해진 여름 행위 저 주의 거해진 여름 과저 주의 Saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix.
Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous croyons que tu as des choses sur ton cœur à nous transmettre ce matin encore. Nous demandons de ce que tu nous aides par ton esprit à accueillir ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus. Amen. Avant d'écouter la lecture dans le livre de Ruth au chapitre 2, j'aimerais juste lire ces quelques versets dans le livre des Éphésiens. Vous, si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà chercher dans le livre de Ruth, s'il vous plaît. Mais voilà ce que est écrit dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous étiez sans Christ, ce qui veut dire privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Autrefois, mais maintenant, en Christ Jésus, vous, nous qui étions autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. C'est lui notre paix. Je vous invite à écouter la lecture dans le livre de Ruth, chapitre 2.
Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse !» Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis, elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta, et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas, et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ?»« Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. » lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère.
Voilà, si vous n'avez pas été avec nous la semaine passée, on avait vu le premier chapitre de ce livre de Ruth, la descente dans la campagne de Moab, suite à des temps difficiles en Israël, et puis cette petite famille était tombée dans une situation totalement désespérée, où Naomi, qui a perdu mari, deux fils, ne pouvait plus s'en sortir. Mais on a vu que, d'une manière cachée, le Seigneur était à l'œuvre en permettant que Ruth s'attache à sa belle-mère pour l'accompagner au retour à Bethléem. Et on avait conclu en disant qu'il y avait des ressources insoupçonnées à découvrir. Ce matin, j'espère qu'on va en découvrir ensemble. Une attente. Voilà de retour à Bethléem, la maison du pain. Une attente. Je me rappelle quand j'ai rencontré des chrétiens qui parlaient du Seigneur, je sentais une attente grandissante que quelque chose allait se passer d'important. Est-ce que c'était le sentiment de Ruth en allant dans le pays à côté en Israël? Est-ce que c'est votre sentiment ce matin? Le Seigneur a de bonnes choses à nous donner. Donc on retrouve Ruth et son attitude de cœur qui fait appel à la bienveillance de Dieu. Parce que son choix, où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je mourrai. C'est très vite dit, elle l'avait dit au chapitre 1, mais le lendemain, quand on se lève, c'est bien plus compliqué qu'on ne pense. Elle s'est mise en route, elle s'est mise en route de retour de Moab et on peut supposer qu'elle attendait trouver le chemin de la paix. Je crois que c'est son attente. Elle fixe le GPS, le chemin de la paix à Bethléem. Et c'est là où elle veut aller. Mais où trouver le repos dans une telle situation? Où est le chemin de la paix? L'auteur nous donne un clin d'œil en tout premier verset de notre lecture pour nous mettre dans le bain. Ah, Élimélec, le beau-père décédé depuis un moment, dans la famille, la belle famille, il y a quelqu'un, mais quelqu'un de valeureux, un homme de moyens, mais ça veut dire, paraît-il, qu'un peu un chevalier, quelqu'un pas seulement qui a de l'argent dans son porte-monnaie, quelqu'un de valeureux, un guerrier presque, qui aura les moyens d'intervenir. Alors, ce chemin de repos se trouve où? Verset 2. Ruth se lève pour glaner, pas très reposant. Je ne sais pas s'il y a des aînés parmi nous qui ont glané. Oui, dit Marguerite. Un travail éreintant, j'imagine. Chemin de la paix. C'est sans doute pour cette raison que Ruth, la plus jeune des deux, sort, elle, pour faire ce travail, tout comme vous, nos jeunes, vous précipitez pour porter les sacs lourds de vos parents quand ils font les courses. Mais c'est pas la capacité de travail de Ruth que je veux souligner, c'est son attitude de cœur. Beaucoup pensent que Ruth était de la famille royale de Moab, parce que quelques générations plus tard, quand David est en fuite, poursuivi par le très méchant Saül, le roi de l'époque, il va prendre ses parents, le vieux Isaïe et sa femme, et demander au roi de Moab de les cacher, eux et le reste de la famille. Un lien familial, peut-être. Dans tous les cas, on peut dire que Ruth, arrivée dans ces conditions, il y avait une forte tentation pour elle à la pitié de soi, fille du roi ou non. Souvenons-nous, elle vient de perdre son mari si jeune. Elle se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Boaz doit dire à deux reprises, ne la touchez pas. C'est cette Moabite qui est venue avec sa belle-mère. Au verset 16, on a entendu, ne lui fais pas de reproches, sale Moabite, rentre chez toi. Vous avez remarqué l'attitude de cœur de Ruth. Permettez-moi d'aller glaner dans le champ où je trouve faveur du propriétaire, de trouver grâce. Ruth ne réclame pas ses droits, pourtant c'était un droit. Toute la reconnaissance qu'elle démontre dans ce chapitre dévoile l'attitude de son cœur. Pourquoi tu me montres tant de bienveillance, moi qui suis une inconnue ? Verset 10. Tu as parlé, verset 13, à mon cœur, au cœur de ta servante, et pourtant, moi, je suis même pas comme l'une de tes servantes. Je suis pas digne de tant d'attention. Ça nous rappelle quelqu'un d'autre qui est rentré au pays, qui n'avait plus d'espoir d'avenir. Certains fils qui s'étaient égarés. Pas, je suis pas digne. Mais est-ce que c'est pas l'attitude de cœur qui fait appel à la bienveillance de Dieu? Qui, quelque part, invoque sa faveur? Dans le Nouveau Testament, c'est une évidence. Ici, déjà présent, dans l'Ancien Testament. C'est une attitude de cœur, tout le contraire de la pitié de soi avec ses fruits amers. Celle qui s'abaisse est sur le point d'être relevée, élevée, objet de cette bienveillance de Dieu qui imprègne ce livre de Ruth, la faveur de Dieu. Donc, Ruth a pris ce chemin, vous avez peut-être remarqué au verset 11, déjà emprunté par Abraham. On a rapporté à Boaz comment elle a quitté son père, sa mère, son pays, pour aller vers, pour elle, un peuple qu'elle ne connaissait pas. Elle a pris le chemin de la foi. Chemin coûteux, mais le chemin qui mène au repos véritable. Ce chemin qui nous a été proposé encore ce matin. Celui de s'approcher de celui qui s'est laissé outrager sur cette croix. Alors, voilà l'attitude de cœur de Ruth. Qu'en est-il de Boaz? Une brève lecture de la loi. L'Ammonite et la Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même leur dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est ainsi pour toujours, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudroyé contre toi Balaam, fils de Béor, ce magicien, pour te maudire. Exclu. Ainsi la loi. Les Moabites ne vous ont pas fait accueil, vous ne les accueillerez pas dans votre assemblée. Ils ont voulu vous maudire, c'est eux qui seront exclus de ma présence. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Établi pourquoi? Pour justifier la vengeance? Ou, je crois que je l'ai déjà évoqué, pour limiter cette spirale de violence qu'on trouve déjà dans la Genèse? Ada est-il là? Écoutez, votre mari, les mecs. Genèse chapitre 4. A tué un homme pour sa meurtrissure, un enfant pour sa blessure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Je vous avais raconté mon histoire, mais je vous la rappelle si vous avez oublié de cette histoire, œil pour œil, dent pour dent. C'était le cas jusqu'à ce que celui qui devait venir vienne et dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un te frappe sur une joue, tant l'autre. Et mon histoire, vous vous souvenez, le boxeur irlandais qui s'est converti, champion, poids lourd. Et il faisait des réunions en plein air. Et un ancien copain est là dans l'auditoire, sachant qu'il est devenu chrétien, et connaissant un petit peu quand même quelques histoires qu'il a entendues à l'école de dimanche. « Ah, tu es chrétien maintenant !» Et il gifle sur une joue. Le boxeur tend l'autre joue. Tchac. Au boxeur, ensuite, de le descendre d'un coup de poing formidable. Le Seigneur ne m'avait pas donné d'autres instructions. Aimez, vous avez entendu qu'il est écrit, aimez vos voisins. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ceux qui vous méprisent, vous persécutent, qui vous traitent d'une manière honteuse. La loi du talion, pour une époque, jusqu'à ce que ce développement moral que Jésus, l'accomplissement de la loi, nous apporte. Mais Boaz, pour revenir à lui, ne semble pas être en phase avec la loi. Ça nous choque, ça nous surprend. Les Moabites ont refusé de donner de l'eau et du pain. Qu'est-ce que fait Boaz? Il donne de l'eau, verset 9, va puiser dans les cruches que mes servantes auraient puisées. Et au moment du repas, verset 14, il donne du pain. Les Moabites ont appelé la malédiction sur les Israélites à leur sortie d'Égypte. Boaz, lui, verset 12, appelle la bénédiction, que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On dirait que Boaz est une sorte d'anachronisme à l'envers. La grâce avant l'heure. Ou est-ce qu'il a déjà compris l'esprit de la loi? Que Dieu fera preuve d'une bonté qui dépasse le code avec sa sévérité. Donc, quand Boaz dit, lis dans la loi, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, lui, il comprend. Non, vous enleverez des épis et vous les mettrez sur le chemin de ceux qui n'ont pas, qui ont moins que nous. Résultat des courses, vous l'avez au verset, dans le passage, un épha d'orge, c'est quoi ça? Résultat des courses, 30 kilogrammes de shopping à porter pour Ruth. De là, la réaction de Noémie, « Donne-moi vite l'adresse où tu étais ce matin. » Le légalisme conduit au strict minimum. La grâce a une largesse débordante. Adhérer simplement à un code avec ses obligations, on est là par devoir. Ou est-ce qu'on souscrit de tout cœur aux lois bienveillantes de Dieu qui conduit à la compassion et à la générosité? Vous me dites, mais danger, on diminue la loi, danger de laxisme. Non, je crois la grâce nous conduit à une obéissance de cœur librement consentie. Glaner dans les champs d'un Boaz, c'est sentir l'odeur de la vie. C'est découvrir qu'il y a une abondance dans la campagne de Bethléem. Bethléem, je vous rappelle, qui vient d'être visité par la faveur de Dieu. Aujourd'hui, on dirait la pluie de l'Esprit. La boulangerie, Bethléem, maison de pain, offre des odeurs, une promesse à venir, comme les églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça, c'est pour Boaz. Maintenant, qu'en est-il du maître de la moisson? Où est la source de notre repos? L'auteur du livre veut nous faire partager sa conviction que malgré ses déceptions, les interrogations, les doutes, à travers même la souffrance, Ruth est en chemin vers le repos. C'est un des thèmes du livre. Elle est maintenant sous le regard du Dieu d'Israël, ce Dieu souverain qui l'a cherché dans la campagne de Moab pour lui montrer son amour, sa faveur, et maintenant en le faisant rencontrer cet homme bienveillant de Bethléem. Vous avez constaté que c'est à travers les actes de fidélité des siens que le Seigneur se plaît à manifester sa provision et ainsi se faire connaître. À travers des Noémies, des gens pas au top de leur forme, mais le Seigneur le sait, le comprend, et il sait relever du découragement. Des Boaz qui allie profession de foi. Vous avez remarqué sa salutation à ses ouvriers. Soyez bénis de l'Éternel. Je ne sais pas si les patrons parmi nous saluent ses employés ainsi. Soyez bénis de l'Éternel, mais il allie avec la pratique. C'est la pratique cohérence plus. Même sur le lieu de travail. À travers des gens tout simples, dans le livre de Ruth, il n'y a que des gens tout simples, pas des rois, pas des généraux. Dieu accomplit de grandes choses. Et tout d'un coup, donc, Noémie, verset 20, va se relever, va retrouver vie. Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance. Il n'y a pas si longtemps que de ça, elle s'est sentie totalement abandonnée. Et pour Ruth, à son insu, elle découvre ce qu'on savait déjà, nous, à travers sa famille par alliance, il y a un avenir tout autre qui s'annonce. Dans sa providence, Dieu aura tout prévu. Il a tout prévu pour toute femme, tout homme, sans ressources personnelles. Il y aura pour chacun droit de rachat, disait la loi, s'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. L'un de ses proches parents pourra le racheter. C'était la loi. La première rencontre en route pour trouver le Rédempteur a eu lieu totalement par hasard. Il se trouvait qu'elle est tombée dans le champ d'Élimélec, de Boaz, Boaz de la parenté d'Élimélec. Par la suite, elle reçoit ses clins d'œil en cours de route. Tiens, il y a beaucoup d'épis ici et encore là, jusqu'à ce qu'elle doit laisser des tas ici et là. Quelle abondance tout d'un coup. Tiens, d'où est-ce que ça vient? Jusqu'à ce qu'elle découvre l'identité de celui qui a pris soin d'elle, cet homme de valeur qui se révèle être leur Rédempteur. Dieu est en vadrouille dans la contrée de Bethléem. Décidément, il n'a point abandonné sa bienveillance, ni hier, ni aujourd'hui. Je conclus. Ruth était étrangère aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais elle s'est approchée du Dieu d'Israël, dans l'humilité de cœur, pour demander refuge sous ses ailes. Dans votre douleur, dans votre besoin, voulez-vous pas faire de même? Elle était privée du droit de cité en Israël, mais elle est tombée sur un homme dont la générosité annonce l'attention du Seigneur à faire grâce à toutes les Moabites et autres de ce monde et de devenir leurs proches parents. Notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés au prix de sa vie par son sang, nous a invités à nous désaltérer, à venir manger à sa table. Approchons-nous de lui, toujours à nouveau, mais avec l'attitude de cœur d'une Ruth, convaincue de la générosité de l'accueil. Le maître de la moisson a encore beaucoup de bonnes choses en réserve pour chacun d'entre nous. Amen.
Un petit bout du royaume des cieux ce matin. Vous ne trouvez pas? Ça sent bon. On va chanter, on va prendre un dernier chant pendant la collecte. Lauriane Schmitt, puis Juliana Girardet, s'il vous plaît. Vous voulez bien ?
Par le sang